France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse Weekend. Dans cette actualité trumpienne peu réjouissante, un peu d'oxygène, une palette de couleurs dans cette grisaille informationnelle, quelques tableaux qui font plaisir, qui nous stimulent, qui font du bien à notre âme, à notre sensibilité, à notre intelligence, en compagnie de la conservatrice générale du patrimoine au musée du Louvre, Dominique de Fonréau, de la philosophe Laurence de Villers et avec la critique d'art Margot Brugvin. Des peintures qui nous permettent de mieux voir nos vies, le monde, les paysages, la lumière. Alors vous pourrez taper le nom des tableaux cités sur un moteur de recherche pour les regarder en même temps que nous. Et la liste de tous les tableaux figure déjà sur l'appli Radio France ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dites-nous également sur l'appli Radio France et sur Facebook quels sont les tableaux qui vous rendent heureux. J'imagine Picasso s'inspirer de leur visage pour créer des œuvres abstraites. Thibaut de Saint-Maurice et Guimet Audicino.
Okay.
Bonjour Thibaut, chercheur en philosophie dans la vraie vie. Quel est le menu de votre punchline philo?
C'est réjouissant, vraiment le plaisir que vous prenez à trouver ces introductions, c'est vraiment réjouissant de pouvoir faire ça, c'est vraiment formidable.
Donc le menu?
Eh bien, que du classique, du très classique, cet extrait de la pensée 347 de Blaise Pascal, l'homme est un roseau pensant.
Bonjour Guimette, chef de rubrique Cinéma Télérama, quelle est votre ordonnance de ciné-thérapie cette semaine?
Alors déjà, bah, vous n'avez pas tort Ali, parce que plus je vieillis, plus je ressemble à un Picasso, donc ça me va, ça me va très très bien. Si, ça colle, ça colle. On va parler du Louvre, donc je vais parler cambriolage.
Oh. À tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, l'émission qui donne du sens à votre vie quotidienne.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rebbi.
Ce sont des fortifiants, les œuvres des musées, pas simplement des musées, d'ailleurs du patrimoine en général, la création en général, ce sont des fortifiants, c'est-à-dire des agents d'amélioration de nos vies au quotidien. Ce sont des agents existentiels, si vous voulez. C'est la phrase clé de Cézanne qui dit « Il faut aller au Louvre par la nature et revenir à la nature par le Louvre ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que il y a un mouvement de balancier, un mouvement de va-et-vient. Si vous êtes capable de prendre un petit peu de temps pour regarder les portraits du Louvre, vous saurez d'autant mieux voir un visage et vous regarderez d'autant mieux ces portraits du Louvre que vous êtes attentif au visage qui vous entoure dans votre vie quotidienne.
L'auteur à succès de l'excellent roman Les yeux de Mona Thomas-Schneesser, c'était dans Sous le soleil de Platon le 1er janvier 2025. Bonjour Dominique de Fonréau.
Bonjour Ali.
Conservatrice générale du patrimoine, chargée de mission auprès de la présidente du musée du Louvre, Laurence Descartes. Vous êtes également rédactrice en chef de la revue Histoire de l'art. Bonjour Margot Brugvin.
Bonjour.
Vous êtes critique d'art et créatrice de contenu sur Instagram, TikTok et YouTube, consacré à l'histoire de l'art, où vous mettez notamment en avant des artistes féminines. Bonjour Laurence de Villers.
Bonjour Ali Rebbi.
Philosophe normalienne agrégée et docteur en philosophie. Vous avez réalisé des visites philosophiques au musée d'Orsay par le passé. Alors que vous inspire...
Elles vont reprendre.
Elles vont reprendre bientôt. Que vous inspirent ces propos de Thomas Schneesser? Et c'est vrai que ce qui vaut pour les visages vaut aussi pour les objets. Hein, la peinture qui permet également de mieux voir sa vie quotidienne. Quand j'admire une corbeille de fruits peinte par Chardin ou Cézanne, je regarde autrement le compotier qui contient mes citrons et mes pommes. C'est beau cette citation de Cézanne reprise par Thomas Schneesser.
Oui, parce que nous faisons des distinctions complètement artificielles, nature-culture. L'art nous montre que la seule chose qui compte, c'est de savoir voir. Alors, les auditeurs se disent, ben, tout le monde sait voir, il suffit d'ouvrir les yeux. Ben non, très souvent, nous vivons les yeux fermés en réalité. Et donc, la nature permet de mieux voir un tableau, et un tableau fait prendre du plaisir à voir la nature. Pourquoi je dis plaisir? Parce que je pense que voir la beauté, donc là on va parler peinture, donc voir la peinture, ça nous prouve qu'il y a une autre distinction qui ne fonctionne pas, c'est la séparation de l'esprit et du corps. En fait, le plaisir que procure la beauté de voir un tableau, c'est un plaisir global, c'est une expérience totale. C'est la chair, pas seulement... c'est la chair, c'est tout d'un coup, on a l'impression que c'est presque les tripes. C'est la chair, le corps, l'esprit, et peut-être quelque chose qu'on a du mal à définir, peut-être l'âme aussi. Donc je pense que effectivement, ça nous rend vivants. On a de la vie en plus quand on voit la beauté.
Dominique de Fonréau.
Oh ben je crois que chaque fois qu'on regarde un tableau, chaque fois qu'on vient dans un musée, c'est comme une rencontre avec l'œuvre, mais avec soi. Je trouve que là, tout d'un coup, comme le dit Thomas, comme le dit Laurence, on regarde un peu mieux, on ouvre les yeux un peu plus grands, et puis tout d'un coup, on se met à déchiffrer aussi ses propres émotions. C'est ça qui est intéressant.
Margot Brugvin.
Oui, moi je me demande toujours si c'est l'art qui influence plus la vie ou la vie qui influence plus l'art. C'est, est-ce que je suis si sensible au coucher de soleil parce que c'est très beau ou parce que... Dans la culture, dans l'art, on m'a appris à regarder les couchers de soleil.
Au-delà du pur plaisir esthétique, on ne valorise pas suffisamment la peinture comme instrument de connaissance de soi, connaissance des autres, du monde, des paysages, des choses invisibles. Laurence de Villers.
Mais oui, parce que encore une fois, là, je crois que nous faisons des séparations qui nous empêchent de vivre ce que nous pouvons vivre. C'est-à-dire que on se dit parce que c'est de la peinture, il y a pas de mots, par exemple. Bah, il y a pas de mots, ça veut pas dire qu'il y a pas de langage. La peinture nous parle. Moi, je vais même plus loin. Je pense que la peinture pense. Donc nous pensons que parce que sont des couleurs, des formes, une perspective, il y a pas d'idée. Il n'y a pas quelque chose qui se dit, alors que quelque chose se dit. Et puis, on pense que parce que c'est culturel, c'est pas la vie. Mais on se rend compte, si on a l'audace d'être libre face à un tableau, de laisser les choses se passer, on se rend bien compte qu'il n'y a plus aucune frontière entre la vie, le fait d'être en vie, ma vie à moi, et la vie de ce tableau, ce qui est cette rencontre, comme l'a dit Dominique, c'est une rencontre. Et puis... Alors, paradoxalement, je pense que le tableau me permet de m'oublier. La beauté me permet de me désencombrer de moi-même. Alors qu'on est toujours un peu apeuré sur est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on est assez, est-ce qu'on existe suffisamment, etc. Et là, la beauté, elle me libère même de moi, tout en me ramenant, comme le disait Dominique, à moi, mais d'une manière beaucoup plus légère en réalité.
Dominique de Font-Réau.
Oui, je pense qu'on s'oublie, mais on se révèle aussi. En fait, moi, je trouve ça toujours assez fort combien, dans les galeries de musées, tout d'un coup, parce qu'il y a une œuvre ou une autre qui vous arrête, et on se dit, mais là, finalement, il se passe quelque chose que j'avais pas pensé comme ça, ou pas complètement imaginé comme cela. Et ce quelque chose peut, et je suis d'accord avec ce que vient de dire Laurence, peut être à la fois le sujet de l'œuvre, mais peut être aussi à la fois la lumière qui jaillit de l'œuvre, peut être aussi la couleur employée, peut être en beaucoup, beaucoup de choses différentes. Et j'aime bien ce que vous disiez tout à l'heure aussi, Manon, c'est cette idée de comment dire, qu'on ne sait pas pourquoi on aime quelque chose. On ne sait pas si on aime effectivement un coucher de soleil parce qu'on l'a déjà vu, j'en sais rien, chez Monet ou chez Renoir, ou si, au contraire, on l'aime comme ça et que c'est l'inverse. C'est-à-dire que je pense qu'il y a toujours une espèce de forme de médiation entre soi et l'œuvre qui est extrêmement intéressante.
Margot Brugvin.
Pardon Margot,
aucun problème.
Manon, pardon, je me suis rendu compte.
Pas de problème. Non, moi ce que j'aime, c'est quand il y a quelque chose que je peux pas comprendre effectivement, que je suis touchée et que je sais pas expliquer pourquoi. Et aussi quand je commence à comprendre la vision de quelqu'un d'autre, que je suis en train de regarder le monde à travers les yeux d'une autre personne, d'un artiste qui a pensé, qui a réfléchi le monde et comment le représenter, et que ça. Mais élargit ma perception du monde aussi, que ça la modifie légèrement.
Laurence de Villers.
Ben je pense que regarder un tableau, ça nous rappelle que nous sommes des êtres de relation, qu'il y a de l'autre que moi, et que c'est ça qui nous enrichit, c'est d'être capable de nous mettre en relation avec quelque chose d'autre que nous, et même qui n'a pas besoin de nous pour être ce qu'il est. Et ça, c'est infiniment enrichissant.
Dominique de Font-Réau, martelons-le encore une fois à ce micro, se rendre au musée, dans une galerie d'art, par les temps qui courent, plus que jamais instable et anxiogène, cela revêt un caractère presque thérapeutique. J'ai passé un après-midi au musée d'Orsay il y a quelques semaines, notamment pour admirer l'exposition de John Sargent. Mais quel bain régénérant face à cette actualité déprimante. Et je me suis promis d'aller plus souvent au musée.
Mais il faut aller au musée aussi souvent qu'on le peut, et dans tous les musées, hein, pas seulement évidemment les grands musée à Paris, parce que d'abord, les auditeurs n'habitent pas que Paris, mais tous les musées en région, il y a des musées fabuleux sur tout le territoire français, hein, et ça c'est une chose vraiment importante, on a cette chance-là, nous, en France, cet élément-là. Aller au musée, parce que tout d'un coup, au musée, il y a tout ce qui vient d'être dit, et que je partage complètement par Laurence et par Margot, mais il y a aussi quelque chose de très fort, c'est que tout d'un coup, on est face à une humanité qui nous précède et une humanité qui nous suit. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, la personne, cet artiste qui a disparu depuis un certain temps, qui vivait peut-être dans un autre lieu géographique, a conçu quelque chose qui nous parle toujours à nous, début 2026. Et ça, quelle force par rapport à une actualité désespérante.
Guillemette.
Et puis le musée, s'il fallait comparer, par exemple, alors, la peinture avec le cinéma, avec la musique, etc. On ne peut pas écouter plusieurs disques en même temps. On ne peut pas regarder plusieurs films en même temps et on ne peut pas lire plusieurs livres en même temps. Le seul endroit où on peut voir toutes les beautés du monde d'un seul média, c'est le musée. C'est-à-dire, vous pouvez vous pouvez n'y rester qu'une demi-heure ou trois heures, mais et tout d'un coup, vous êtes confronté à ce que l'humanité a produit de plus beau en peinture. Tout ça dans un espace relativement réduit. Ça n'existe dans aucun autre art.
Laurence Vider.
Oui, je pense que c'est important, comme l'a fait Dominique, de souligner les musées ailleurs qu'à Paris. Moi, je me souviens avoir eu un choc au musée de Quimper, des œuvres invraisemblables. Non, moi, j'ai toujours l'impression que la clé pour rentrer dans un lieu, c'est par son musée. Parce que là, je vais avoir une sorte d'intensité de beauté qui va me porter pour la suite. Donc, moi, je vais dans le musée pour me dire, je vais avoir justement cette réserve et cette promesse de bonheur. C'est pas moi qui le dis, mais cette promesse de bonheur, parce que ça y est, c'est possible. C'est possible d'être heureux. Et puis, j'insiste, on l'a fait, mais j'insiste, on me demande très souvent pour ces visites philosophiques au musée d'Orsay, oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais rien. Mais rien. On est tellement sollicité tout le temps pour tout et n'importe quoi que le musée me demande de ne rien faire.
C'est vraiment une des choses que je pense, une des raisons pour lesquelles j'aime le plus me rendre au musée, c'est le ralentissement que ça permet. Le fait qu'on puisse passer peut-être que 2 minutes, mais 2 minutes devant entièrement à regarder une seule image et à comprendre toutes les strates de cette image, ou à ne pas comprendre, parce que c'est aussi quelque chose que je trouve très beau. C'est le seul lieu où on a le droit de ne pas comprendre et de juste ressentir.
Alors commençons notre sélection de tableaux qui font du bien avec vous, Dominique de Fonréau. Vous avez choisi un tableau de Goya, Les Vieilles, peint vers 1808-1812 et que l'on peut admirer au Palais des Beaux-Arts de Lille.
Voilà, justement, on parlait de musées magnifiques en région. Le Palais des Beaux-Arts de Lille, c'est une des plus belles collections formidables. Hein, vraiment, que tous nos amis du nord de la France y aillent s'ils n'y sont pas déjà allés. Alors, j'ai choisi un tableau qui n'est pas... l'idée, ce n'était pas un hommage à mon grand âge. Hein, ce n'était pas pour ça que je l'ai choisi. Je rassure tout de suite les auditeurs. Mais parce que je trouve qu'il y a là quelque chose d'incroyablement fort et qui me touche beaucoup.
Qu'est-ce qu'on voit ?
Dans l'invention picturale. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit deux femmes assez richement habillée pour l'une d'entre elles, habillée dans une magnifique robe blanche avec de la dentelle, des incrustations en or. Une autre femme qui est sans doute sa suivante, qui est habillée d'une très belle robe aussi noire. Ces femmes sont assises. Elles ont dû être attachées à une forme de beauté quand elles étaient plus jeunes, mais aujourd'hui cette beauté les a fui parce que le peintre leur donne un visage qui est un visage très creusé,
un peu cadavérique.
Avec qui est rehaussé, on le voit, par un maquillage un peu trop fort, comme ça peut arriver de temps en temps. Et ces deux femmes sont un peu recroquevillées aussi. Elles ont perdu de la prestance, on les voit par rapport à ça. Et derrière elles, il y a un homme avec les cheveux blancs, donc relativement âgé, avec des ailes. Donc on se dit tout de suite, ce n'est pas un homme en réel, c'est évidemment une allégorie. Et c'est l'allégorie du temps. Et ce temps est là, penché vers elle, avec une torche qui peut s'éteindre, donc c'est là, à ce moment-là, à la fin de la vie, et qui le rappelle que rien ne dure, en fait. Cette œuvre, qui est une grande œuvre, hein, j'aurais dû le dire, c'est une œuvre de grande dimension, est une œuvre qui est aussi une vanité, c'est-à-dire elle nous rappelle que la vie terrestre se finit.
Pourquoi ce tableau vous touche autant?
Alors, ce tableau me touche autant pour différentes raisons. D'abord parce que Goya est un artiste dont la conception, et quand je suis face à ça, dont la conception est dans son temps finalement extrêmement novatrice. C'est-à-dire qu'il explore les passions humaines comme personne d'autre. Ce tableau a d'ailleurs un pendant qui est aussi au Palais des Beaux-Arts de Lille, qui est Les Jeunes. Donc d'une certaine manière, il y a évidemment ce pendant. Et il y a cette espèce de petit écriteau de lettres que tient une des femmes, sur lequel il y a écrit « Quétal, comment vas-tu ?» Visiblement mal, faut le dire. Mais c'est pas à cause de Quétal que ça me touche. Ça me touche parce qu'il y a cette invention plastique et iconographique incroyable, et il y a aussi cette beauté pure de la peinture, c'est-à-dire que malgré le côté très presque caricatural hein, du visage des femmes, il donne notamment à la robe blanche une somptuosité absolue de lumière, de couleur, de brio. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette œuvre a été, avant d'être au Palais des Beaux-Arts de Lille, dans le musée espagnol de Louis-Philippe, donc présentée au Louvre, et a bien sûr influencé toute la peinture de la seconde moitié du XIXe siècle.
Les vieilles de Goya admirées au Palais des Beaux-Arts de Lille, un mot, Laurence de Villers.
Bah, en fait, moi, ce qui me surprend toujours chez Goya, c'est qu'il est sur le fil, on pourrait presque dire qu'il peint la laideur. Et donc, il arrive à rendre beau la laideur, et c'est ce qui fait que chacun de ses tableaux, on a quand même un mouvement de recul au départ. Il peint ses prisonniers complètement amaigris, qui sont presque des bêtes humaines en réalité, et on a un mouvement de répulsion même au départ. Et quand même, c'est beau. Donc, c'est un tour de force.
Il est déjà 10h21 et c'est l'heure de retrouver la cinéthérapie de Guillemette Audicino.
France Inter.
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films. Il n'y a pas de temps mort.
Grand bien vous fasse.
Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement.
Alors, chère Ali, si j'étais cambrioleuse de musée, je piquerais le panier de fraises de Chardin. Qui ferait très bien au mur de ma cuisine. La falaise d'Étretat après l'orage de Gustave Courbet pour ma chambre. Ça colle pile poil avec le bleu de ma couette. Et sans doute le salon, l'été 1917 de Pierre Bonnard. Ou un grand Nicolas de Staël, ah là là, mon cœur balance, pour accrocher dans le salon. En même temps, si j'en juge les grands films américains de cambriolage, je n'ai absolument pas la forme physique pour le faire. Non, mais vous avez vu les mecs, quoi. Alors, ils rampent dans des conduits d'aération, ils pendouillent sur des filins de 6 mètres depuis le plafond, ils se mettent en boule dans des caissons de 50 cm carrés, ou font des entrechats entre des centaines de faisceaux laser. Bon, en gros, ce sont des génies en informatique, souples comme Houdini et gracieux comme Nureyev. Bon, mais alors, heureusement, le cinéma français est là, avec ses aigres fins et ses montants l'air plus raisonnables, mais qui, grâce au miracle de la comédie, ne s'en sortent pas mal non plus. Le truc, c'est de ne pas voler trop gros. Discret. Malin. Comme dans Un beau voyou de Lucas Bernard, où un commissaire proche de la retraite est soudain regaillardi par un vol de tableau. Il sent que le voleur est un artiste de la cambriole, mais qui ne vole que des tableaux qui ne coûtent pas trop cher dans des collections privées pour ne pas faire la une des journaux. Et surtout, ce flic amer dont les chemises témoignent qu'il n'a pas un goût très sûr va peut-être se mettre à aimer l'art.
C'est ça l'astuce. Qui pourrait refourguer la Joconde ?
Bonjour, je suis de la police. J'enquête sur des vols de tableaux.
Excitant.
Il semblerait qu'un des tableaux soit passé par chez vous.
Très possible, nous sommes les meilleurs.
Alors, ce film est un petit régal dans le genre jeu du chat et de la souris. Alors d'abord, c'est un film avec Swan Harlow. Donc voilà, paf, ouais. Première énorme qualité. Ça compte.
Vendu.
Vendu. On a rarement vu ces derniers temps un personnage féminin principal aussi pimpant et insolent, et incarné par Jennifer Decker de la Comédie Française, et Charles Berling a un petit côté Columbo en plus mélancolique. Et surtout, Lucas Bernard filme de véritables ballets sur les toits de Paris, avec d'ailleurs une scène d'évasion aux petits oignons. Si vous aimez la main au collet d'Hitchcock, ce beau voyou est pour vous.
Vous n'avez pas de voleur de musée dans votre ordonnance ?
Mais si, Ali, mais si. Mais alors, pas le Louvre, hein, ni Orsay. Plus discret, je vous dis. Un musée à Dijon. Avec « Je promets d'être sage » de Ronan Lepage. Pio Marmaille y incarne un metteur en scène de théâtre trop fiévreux et à bout de nerfs qui décide de trouver un travail calme. Il accepte un job de gardien de musée et le voilà assis des heures devant des sculptures de gisants. Mais sa collègue, incarnée par Léa Drucker, est odieuse à un point. Tant d'agressivité, ça doit cacher quelque chose.
Bonjour monsieur, je cherche un tableau. On voit une tête tranchée posée sur un plan en or. Je suis tombée sur un agent de surveillance parfaitement incompétent.
En quoi je dois lui rendre des comptes à elle ?
Cela pète comme si elle était conservatrice. Mais c'est qu'une agent de surveillance.
Ils sont où ces objets ?
Ce machin qui moisissait dans les réserves depuis des années peut tout changer pour nous.
Alors donc, un type qui voulait vraiment ne plus faire de vagues, se retrouve mêlé à un petit trafic d'œuvres d'art. Petit, mais suffisamment remuant pour ne pas rester sage du tout. Cette merveille de film dans le décor génial de ce musée dijonnais fait sans cesse des étincelles et propose deux personnages de merveilleux inadaptés, un peu zinzin, enfin non, complètement zinzin. Pio Marmaille et Léa Drucker, alors ils cambriolent pas le Louvre, certes, mais ils cassent la baraque. Avec ces deux films, vous verrez Ali, combien l'art, mais ça change la vie.
Le rappel de votre ordonnance de cinéthérapie, docteur Guimette.
Alors, je promets d'être sage, c'est pas moi qui le dis, c'est le film.
Avec Son Arlo, donc
Non, je promets d'être sage avec Pio Marmaille et Léa Drucker,
oui.
Et Un beau voyou avec Son Arlo et Charles Berling.
La cinéthérapie de Guimette Odissino a podcasté et à partager sur l'appli Radio France. Dans un instant, on continue à explorer quelques tableaux qui font du bien. Ce sera juste après avoir écouté Astrud de Gilberto et Carlos Jobim. Mon accent est nul, je sais. Sofinia des Serres comme votre sait. Une chanson de 1965, un joli titre pour saluer le départ à la retraite aujourd'hui de notre très cher chargé de programme, Nathalie Romero, 10h26 sur France Inter. Astrud, Gilberto et Carlos Jobim interprétaient Sofinia des Serres comme voce.
Bon, on y va ?
France Inter.
Ça fait une heure que vous êtes scotché, là.
Beaucoup de sérénité qui se dégage de ce tableau. Même une certaine violence.
Je trouve très touchant aussi.
C'est touchant d'être à cheval sur un fond blanc ?
Grand bien vous fasse.
Mais ça coûte combien, ça ?
Je crois qu'il est à 30 000 euros. Je peux vérifier, si vous voulez.
Ouais, vaut mieux vérifier, quand même. Ça me paraît exagéré comme prix.
Ali Rebbi.
Et ce matin, dans Grand Bien Vous Fasse Week-end, quelques tableaux qui font du bien avec la conservatrice générale du patrimoine au musée du Louvre, Dominique de Fonréau, avec la critique d'art Margot Brugvin et avec la philosophe Laurence de Villers. Beaucoup de messages envoyés sur l'appli Radio France. ML qui nous dit le tableau qui me fait rêver et m'emmène, c'est la piscine de la Baume de Bernard Buffet, ses couleurs chatoyantes, sa perspective, la curiosité de savoir ce qui se passe dans cette maison et autour de la piscine. Lolo, et je suis d'accord avec Lolo, parmi les tableaux qui me font du bien, il y a les tableaux de Bonnard en particulier, nu à contre-jour, être debout, accepter d'être regardé nu, simplement en étant soi. Et puis Brigitte nous écrit, le tableau qui me met en joie notamment, c'est la jeune femme à l'hermine de Vinci, par la sérénité, la beauté, la pureté, la sorte de magie qui en ressort. Et vous, Laurence de Villers, pourquoi avez-vous choisi les dindons de Claude Monet, peint en 1877? C'est un tableau qui ne cesse de vous ravir et que l'on peut contempler au musée d'Orsay.
Alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit en réalité trois couleurs, un rouge rosé, du blanc et du vert. Mais, si je veux être un petit peu plus précise, on voit une flopée de dindons, comme une armée mexicaine, en fait, complètement désordonnée, on ne sait pas où ils vont, ce qu'ils font. Certains ont les plumes en éventail, d'autres regardent au loin. Voilà, c'est le désordre total. Et au loin, il y a justement un château, enfin en tout cas, on voit un petit morceau d'une très belle maison qui a exactement les mêmes couleurs que les dindons, donc du blanc. Et ce rose, qui est celui de leur cou. Et ils sont dans une herbe très verte, verte bleutée, avec quelques arbres. Donc, ça pourrait tomber complètement dans l'anecdote. Ça pourrait être anecdotique, pas digne d'être insu... En plus, c'est un tableau de grande dimension, donc qui lui donne une majesté. Donc, ça pourrait être... on pourrait se dire, enfin, quand même, Monet, il aurait pu faire ça sur un coin de table, mais pas un grand tableau. Et alors... qu'est-ce que ça me fait ? D'abord, je suis à chaque fois émerveillée par le blanc. Parce que le blanc, on pourrait se dire quand même, le blanc, c'est à peine une couleur.
C'est une couleur, vous direz, le grand historien Michel Pastoureau.
Michel Pastoureau, que j'admire comme vous, le dirait. Mais il n'y a rien, d'une certaine façon, dans le blanc. On pourrait dire ça spontanément, il n'y a pas un jeu de couleurs. Et Monet arrive à faire de ce blanc, on dirait des soleils. On dirait que les dindons ont capturé le soleil, que y a des piles, il y a de l'électricité dans ces dindons. Ça, c'est la première chose, et à chaque fois, ça m'épate. Et puis l'économie de moyens, encore une fois, je l'ai dit, il y a un peu de rose, du blanc et du vert. Et surtout, je crois que c'est un des rares tableaux, mais je suis entourée de spécialistes, mais un des rares tableaux comiques. C'est très très difficile de faire très beau, je ne dis pas juste joli, très beau et drôle. Ça ne va presque pas ensemble. Et moi, quand je vois ces dindons... j'ai envie de rire, donc ça fait du bien, et c'est rare, encore une fois, de rire devant un tableau. J'ai envie de rire, et ils me disent ce que c'est que la liberté. La liberté, c'est marche comme tu veux, même si t'as la tête d'un dindon. Ton blanc est éclatant, et tu peux marcher comme tu veux, vas-y, avance, sois toi-même.
Margot Rugvin.
Oui, moi j'adore ce... on en a déjà parlé, j'adore, c'est un peu la Mona Lisa pour moi d'Orsay, j'adore en fait tous les tableaux qui montrent autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir en peinture, des grandes peintures d'histoire qui sont consacrées à l'homme et à quel point ces hommes sont héroïques. Là, ce sont les animaux, c'est même l'herbe qui est au premier plan, qui est ce qu'il y a d'important. Les hommes, où leur architecture monumentale est reléguée au fin fond du paysage. Et ce qu'on voit, c'est la beauté du vivant. Et c'est, on parlait d'apprendre à regarder à travers les tableaux. Là, il nous apprend à regarder chaque brin d'herbe, chaque rayon de lumière dans les plumes d'un dindon.
Les dindons de Claude Monet à admirer au musée d'Orsay. Alors, Margot Rugvin, vous avez choisi l'autoportrait avec deux élèves d'Adélaïde de Labille-Guillard. C'est peint en 1765 et c'est visible au MoMA à New York. Et je rappelle que tous les tableaux cités sont visibles sur l'appli Radio France et la page Facebook de l'émission.
Oui, alors, c'est un tableau qui fait du bien, je trouve, puisque d'abord, on peut se délecter de les compétences techniques de la peintre, de la légèreté. On voit une femme qui est assise, qui nous regarde fixement. On peut se délecter donc de la légèreté des plumes de son chapeau, de son teint de porcelaine, et surtout des reflets sur sa robe en soie qui sont absolument magnifiques. Mais la raison pour laquelle il me fait du bien, c'est parce que c'est une femme qui est représentée, et ce n'est pas qu'un objet de délectation visuelle. Elle est active, c'est un sujet, elle est en train de peindre. Alors c'est un peu absurde qu'elle peigne dans cette robe si belle, mais
c'est vrai.
Il y a une raison pour ça. C'est un autoportrait donc d'Adélaïde Labille-Guillard qui, deux ans avant de peindre ce tableau, est rentrée à l'Académie royale de peinture. En même temps qu'Elisabeth Vigée-Lebrun, c'était scandaleux, extraordinaire que deux femmes rentrent à l'Académie royale de peinture. Et elle subissait énormément de misogynie. On disait qu'elle était déjà la maîtresse d'un autre peintre, Vincent, et qu'en plus, c'est lui qui peignait ses tableaux et non pas elle, puisque les femmes sont incapables de peindre aussi bien. Et donc là, elle nous démontre qu'elle est vraiment capable de peindre, puisqu'elle est en train de peindre notre portrait. Elle nous regarde. Il y a une grande peinture devant elle. Et en plus, même si elle était rentrée à l'Académie, on lui disait qu'elle n'avait pas le droit de vivre au Louvre pauvre comme les autres académiciens et qu'elle n'avait pas le droit d'apprendre sa technique à des élèves. Et là, il y a deux élèves avec elle qui nous regardent. Donc elle nous explique qu'elle est en train de créer une lignée d'artistes femmes.
Qu'est-ce qui vous touche, Margot Broodvin, dans ce tableau ?
On a toujours l'idée qu'il n'y a pas eu de grandes artistes femmes dans l'histoire de l'art. Il y en a eu énormément. Cette artiste a eu énormément de succès en son temps, mais elle a été oubliée, effacée de l'histoire de l'art. Donc bon, moi c'est ce que je fais énormément. Je trouve toujours merveilleux de redécouvrir ces artistes femmes et de vivre dans notre époque où enfin peut-être on leur donne la place qu'elles méritent.
Guillemette.
Moi ce que je trouve fascinant c'est que ce tableau appartient, vous savez, à ces tableaux. On les regarde une première fois et on est juste, en train d'admirer une prouesse, disons, j'allais dire technique, académique. Et en fait, c'est en regardant un peu plus loin que tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est un manifeste politique. Et alors ça, cette espèce de message derrière, disons, le satin, ça, c'est toujours un truc qui fait un coup. C'est-à-dire, et même les deux, effectivement, les deux petites élèves, il y en a une qui regarde le tableau en train de se faire. Donc, elle regarde ce que la peintre est censée peindre. C'est-à-dire, en fait, elle regarde nous, puisque la peintre nous peint, vous voyez, bon. Et l'autre nous regarde en direct. Espèce de triangulaire de regard. Ça, alors, pour le coup, ça me fait penser un peu au film de Céline Sciamma, pardon, Portrait de la jeune fille en feu. Mais oui, mais parce que ça repose sur un mouvement de regard 100% féminin et qui impose le fait que oui, le féminin est artistique.
L'autoportrait avec deux élèves d'Adélaïde Labille-Guillard, peint en 1765. Dominique de Fonréau du Musée du Louvre, vous avez donc choisi une artiste plasticienne nigériane que je ne connaissais pas, Otobong Nganka. L'œuvre s'appelle Social Consequences.
Consequences.
Allez-y, je vous laisse le dire.
Non, mais je ne suis pas sûre que ce sera mieux. Social Consequences 5, The Harvest.
Voilà, c'est beaucoup mieux que moi. Et c'est visible au Musée d'Art Moderne de Paris jusqu'au 2 février.
Oui, absolument. C'est une artiste, je trouve, très très intéressante, qui est une artiste qui est née en 1974, donc qui est vraiment dans sa première maturité, qui avait déjà eu une très belle exposition dans une galerie privée il y a quelques temps et qui a aujourd'hui... Alors, je ne sais pas si on peut parler de rétrospective, mais presque plutôt une exposition manifeste en ce moment au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, donc organisée par ma collègue Odile Burlureau. Alors, pourquoi cette œuvre me touche ? Elle me touche parce que au premier abord, on voit une femme très colorée qui tient des éléments dont on pense que ce sont des tubercules, d'où jaillissent d'ailleurs des arbres avec des branches. Donc il y a quelque chose d'assez joyeux. Et puis si on regarde plus attentivement, en fait c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'elle a un bras articulé, parce qu'elle a les pieds pris dans une sorte de gangue, mais d'une gangue dont on a l'impression que c'est un morceau de planisphère, en fait, donc de notre planète. Donc on se dit, aïe, 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 finalement, c'est pas tout à fait simple. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que le titre de l'exposition qui a été donné par l'artiste, c'est « I dreamt of you in colors », donc « J'ai rêvé de vous en couleurs », donc rejaillit sur cette œuvre, parce qu'on voit effectivement ce côté très lumineux des couleurs, posé comme ça en aplat, avec quelque chose qui joue sur à la fois l'art de la peinture, mais aussi mélangé avec des autocollants, des éléments, donc des techniques contemporaines, parce qu'elle, Otobong Nganka est quelqu'un qui utilise à la fois la peinture, la tapisserie, etc., bon, beaucoup de choses différentes. Donc, que l'on voit ici, et en même temps, avec quand même une méditation assez forte sur le rapport entre l'être humain et la nature, parce que ces tubercules sont à la fois des légumes, mais on a l'impression aussi que ce sont des cœurs, des cœurs battants, dont les veines seraient peut-être sorties, dont les artères, je ne suis pas très bonne en anatomie, dont les artères seraient sorties du cœur, donc quelque chose d'assez fort. Et ce que je trouve très intéressant chez cet artiste, allez voir l'exposition, il y a encore 15 jours pour aller la voir, c'est qu'elle questionne à la fois le rapport aux artistes femmes, à la position de la femme en Afrique, mais aussi en Occident, elle vit aujourd'hui en Belgique, mais aussi le rapport de l'être humain au paysage, le rapport aussi de ce qui nous lie entre une histoire coloniale, une histoire de développement aujourd'hui, et la manière de dire que la Terre est un lieu qui nous accueille provisoirement et que nous devons préserver comme nous nous préservons nous-mêmes.
Laurence Villers.
Je voudrais anticiper une objection possible, Alice, si vous permettez. On pourrait dire, oui, mais arrêtons de parler des tableaux, il n'y a pas besoin de mots pour les comprendre, il ne faut pas chercher à les comprendre, pourquoi aller chercher quelque chose. Alors,
À ça, je répondrai très rapidement. Deux choses. Il n'y a pas que les êtres humains qui pensent. Les tableaux pensent. Là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Léonard de Vinci. Les tableaux sont una cosa mentale, une chose mentale. Donc, ça veut dire qu'ils ont été pensés et qu'ils continuent à penser. Et en plus, ils parlent, ils nous disent quelque chose. Et puis, je crois que le fait, encore une fois, on sépare trop les choses, le fait de mettre des mots sur ce qui n'en a pas, ça augmente le plaisir. Je veux dire, quand on raconte ce qu'on a vu, ça augmente le plaisir. J'espère que les auditeurs en ont en nous écoutant et le font eux-mêmes.
Ça, c'est le côté, si je peux me permettre, Denis Diderot de Laurence de Villers. Hein, c'est-à-dire redonner sens, effectivement, à la critique en donnant des mots.
Et puis quand même, j'ajoute, parce que je ne voudrais pas qu'on pense qu'on transforme ça en une disserte de philo, c'est qu'on n'en a jamais fini de ne pas comprendre ou de comprendre un tableau. Et c'est ça le plaisir, c'est qu'il y a une énigme, un mystère, et ça ne sera jamais clos.
Margot Brugvin.
Oui, je suis totalement d'accord et je trouve ça aussi merveilleux de pouvoir avoir différentes visions d'un tableau et d'un tableau, d'une œuvre de façon plus générale. Il y a des magnifiques œuvres sur tissu aussi d'Otobon Kanga dans l'exposition qu'il faut absolument aller voir. Et ce que j'aime beaucoup et qui rejoint ce que vous dites avec le travail d'Otobon et qui rejoint ce que vous dites, Laurence, c'est que c'est une œuvre qui montre que tout est lié, que chaque élément qu'on peut apprécier forme un grand tout.
L'œuvre d'Otobon Nganka à voir au Musée d'Art Moderne de Paris jusqu'au 2 février. Alors Laurence de Villers, Chasseur dans la neige de Bruegel l'Ancien, peint en 1565, c'est une œuvre qui vous émerveille, une œuvre visible au Musée des Beaux-Arts de Vienne en Autriche.
Ouais, c'est alors.
Qu'est-ce qu'on y voit ?
Alors, on y voit de très forts contrastes. Il y a beaucoup de neige. Donc il y a le blanc, on a l'impression que le tableau est un peu saturé de blanc, et d'un ciel et d'une rivière qui ont exactement la même couleur, moi j'appelle ça ce vert bleu Bruegel, qui est ni bleu ni vert, c'est vraiment du Bruegel. Et puis il y a un groupe d'hommes avec des chiens, qui avancent dans la neige, donc on se dit ça doit être les chasseurs, et on voit des petites silhouettes patiner joyeusement sur cette rivière gelée, et très 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 au fond du tableau, à l'horizon, des montagnes assez effrayantes, on dirait que c'est presque pré-romantique, hein, des pics montagneux, et j'insiste, parce que je vais y revenir, il y a quatre arbres, on voit des troncs noirs, de façon très géométrique, et des corbeaux, où, je pose la question, un seul corbeau. Alors, Bruegel, Ali, ça va peut-être surprendre, mais moi je suis amoureuse. J'ai des histoires d'amour avec des hommes souvent morts, hein, Descartes, Bruegel, mais c'est vraiment de l'ordre de la relation amoureuse. Ne me demandez pas pourquoi, parce que quand on commence à dire pourquoi on aime, c'est que c'est le début de la fin. Mais voilà, je suis amoureuse de Bruegel, alors j'ai choisi celui-là, mais j'aime Bruegel. Ça paraît un tableau ancien, une scène de genre, il y a des chasseurs. Moi, j'y vois une violence. Une violence qui, justement, ne se voit pas au premier abord. Une violence sourde, mais qui est d'autant plus effrayante. Les chasseurs ressemblent à des soldats. Alors, ils sont déjà chasseurs, donc ils vont tuer. Mais en plus, ils sont représentés comme des soldats. Ils ont des lances, on a l'impression qui font déjà le mal. Pour moi, il y a le mal en marche dans ce tableau. À gauche du tableau, on voit un feu, ça peut être réjouissant. Non, ils vont tuer le cochon. Et tuer le cochon, c'est un massacre.
Et pourquoi ce tableau vous fait du bien ?
Alors, je vais vous dire pourquoi il fait du bien, parce qu'il me dit, regarde, même ce qui peut faire du mal et qui est le mal, moi, Bruegel, j'en fais un tableau. Et je te le donne à voir, c'est-à-dire que t'es pas toute seule. Si t'as quelque part des lances qui t'ont blessée ou des chasseurs qui t'ont chassée, t'es pas toute seule, moi Bruegel je l'ai peint. Et juste une dernière chose Ali, parce que ça me fait du bien, je pense, et je dis pas ça parce qu'il y a Guillemette Odissimo là, je pense que Bruegel a inventé le cinéma avant le cinéma. Parce que le corbeau, les corbeaux, je crois qu'il y en a un seul, et il montre le mouvement, il le démultiplie, il le fait en séquence. Il est d'abord sur une branche, le corbeau, et puis on le voit prendre son envol. Je pense que Bruegel a inventé le cinéma.
Bruegel et ses chasseurs dans la neige, c'est à voir au Musée des Beaux-Arts de Vienne en Autriche. Margot Brugvin, vous avez choisi un portrait contemporain. Margot de Nathanaël Herbelin, c'est peint en 2025, c'est tout frais. Mm-hmm. Et on peut le contempler au Musée d'Art Moderne de Paris.
C'est génial.
Oui, c'est vraiment... Ali, quand vous avez annoncé le thème de l'émission, j'ai immédiatement pensé à Nathanaël Herbelin, qui est une très jeune artiste, puisqu'elle a le même âge que moi, 35 ans.
Beaucoup trop jeune.
Beaucoup trop jeune pour
beaucoup
nous.
Trop jeune. Mais les auditeurs et auditrices la connaissent peut-être déjà, parce qu'elle a été exposée l'année dernière, il y a deux ans, en 2024, au Musée d'Orsay. Donc c'était... une exposition événement, puisque le musée d'Orsay, qui n'est pas un musée d'art contemporain, n'avait jamais accueilli une artiste si jeune. Et elle était dans la salle des Nabis. Donc Nabi, ça veut dire prophète. Il y a notamment parmi les Nabis Bonnard, qui est donc l'artiste préféré de Lolo, votre auditeur de tout à l'heure, et que Guimette voulait voler tout
aussi,
à l'heure.
S'il faut épouser des peintres, moi je veux bien épouser Bonnard.
Voilà. Et Bonnard, donc peignait, Bonnard et les autres Nabis, peignaient le quotidien, mais un quotidien empreint de spiritualité. Et Nathanaël Herbelin est définitivement la petite fille des Nabis. Tout ce qu'elle peint est empreint de spiritualité. Elle peint le quotidien, les portraits de personnes d'aujourd'hui. Et cette Margot qu'elle peint, c'est une jeune fille qu'elle a croisée plusieurs fois dans la rue à côté de chez elle, dans le 20e arrondissement. Une jeune fille qui est en fauteuil roulant. Et elle trouvait cette Margot sublime. Elle trouvait qu'elle avait un visage de reine d'une autre époque, à la fois extrêmement délicat et extrêmement fin et extrêmement fort, un regard extrêmement fort. C'est une jeune fille qui n'est pas verbale, donc qui s'exprime uniquement avec les yeux et avec un petit carnet dans lequel elle arrive à noter quelques petites choses. Et Nathanaël a retrouvé ses parents qui habitent en fait juste à côté de son atelier, leur a demandé si elle pouvait peindre Margot, a communiqué difficilement avec elle. Les parents étaient ravis qu'une peintre s'intéresse à leur fille qui n'est absolument pas représentée. C'est encore plus beau maintenant puisque c'est le Musée d'Art Moderne qui a acheté ce portrait sublime d'une jeune fille donc handicapée en fauteuil qui est montré en majesté au Musée d'Art Moderne à partir de maintenant.
Margot de Nathanaël Herbelin. Tiens, pour ma part, j'aimerais vous conseiller l'œuvre de la peintre américaine Lisa Garner, homonyme de la célèbre romancière. La peintre Lisa Garner, c'est une New-Yorkaise qui a étudié à la faculté des Beaux-Arts de l'université de Santa Cruz en Californie. Elle est arrivée en France en 1987 et elle a été en résidence d'artiste pendant deux ans à la Cité internationale des arts à Paris. Lisa Garner qui expose depuis hier à Paris jusqu'au 1er février, c'est gratuit, à la galerie Au Médicis dans le 6e arrondissement. L'expo s'appelle Passé-Présent. C'est une expo qui explore le temps et la mémoire et c'est une peinture abstraite où les couches de matière, dialogue entre elles. Et parmi les tableaux de Lisa Garner que j'aime beaucoup, beaucoup, il y a Deux Calions qui est peint en 2005. On y voit des formes géométriques qui jouent sur 1000 nuances de bleu et de vert avec des textures variées, des palimpsestes que l'on devine. Alors Deucalion, c'est un nom qui fait référence à un dieu de la mythologie grecque. Deucalion et sa femme Pyrrha qui ont repeuplé le monde après un déluge en jetant des pierres derrière leur dos, des pierres qui deviennent des hommes et des femmes. Et Lisa Garner parle de sa peinture comme d'une métaphore visuelle de la mémoire personnelle, collective, et mémoire de la toile elle-même. Alors le vernissage de l'exposition de Lisa Garner, ce sera ce soir à 18h, donc à Paris, c'est gratuit, et je vous conseille vraiment, c'est jusqu'au 1er février. Vous avez regardé son œuvre?
Oui, parce
Laurence
que, et je trouve très intéressant qu'elle essaie de rendre visible quelque chose d'aussi abstrait que ça fait quoi de se souvenir. Et c'est très réussi parce qu'effectivement, on a l'impression qu'il faut aller chercher derrière l'œuvre. Et c'est ce mystère de l'œuvre. On a toujours envie de passer de l'autre côté. Donc, chapeau de pouvoir représenter quelque chose comme la mémoire. Et c'est près de chez vous.
Dominique de Fonrieau.
Moi, ce que je trouve...
Parce que ça s'est installé près de Fontainebleau, qui est une terre de peintres.
Moi, ce que je trouve formidable dans ce travail, que je ne connaissais pas, c'est vous, Ali, qui me l'avez montré, c'est justement il y a quelque chose qui me fait penser à quelque chose presque de la rhapsodie, en fait, de l'assemblage des tissus, de l'enchevêtrement, à la fois de la pensée et de la profondeur en soi. Je trouve vraiment un travail tout à fait intéressant, tout à fait singulier, et qui mérite d'être allé regarder. Mais vous n'avez pas dit où c'est l'exposition?
Passé présent, c'est à la galerie Au Médicis, dans le 6e arrondissement à Paris, et c'est jusqu'au 1er février. Peut-être un dernier mot, peut-être vous, Thibault, tiens, un tableau qui vous touche?
Moi, j'ai découvert une jeune peintre, enfin une jeune peintre, non, enfin jeune pour mon, dans ma connaissance, mais qui enfin bon, bref, elle a l'âge qu'elle a. Non, parce que si je corrige, bon. Voilà, c'est Françoise Petrovic. Et c'est un tableau, alors ça va être compliqué, c'est un tableau sans titre. Ouais. Et simplement, c'est voilà, deux jeunes, un garçon, un homme, une femme, deux jeunes qui dorment, en fait. Et c'est très touchant, très calme, très reposant, très intime. Voilà. Et donc, voilà, ça m'a conduit à découvrir donc, cette peintre et à regarder d'autres de ses tableaux qui ont, comme souvent, point commun de dévoiler des fragments d'intimité et de les rendre visibles aux yeux de toutes et de tous.
Et j'aimerais qu'on accueille, tiens, pour terminer, notre camarade Julien Bisson, directeur des rédactions du 1 Hebdo, du 1 des libraires, de Légende et désormais du Musée du 1. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour.
Vous consacrez un hors-série à la grande vague du japonais Hokusai. Racontez-nous ce hors-série, et en le dépliant, ce hors-série, eh ben, on a droit à un très beau poster d'Hokusai.
Oui, parce que le Musée du 1, c'est une toute nouvelle collection pour apporter l'art chez soi et vous permettre d'afficher vos tableaux préférés en très très grand, puisque déplier le numéro fait 1m20 de large par 80 cm de haut. Donc pour quelque chose de très grand, il fallait une très grande vague pour commencer, c'est la grande vague d'Hokusai. Alors la grande vague d'Hokusai, elle est visible en ce moment au Musée Guimet à Paris, donc si vous pouvez en profiter, allez la voir au Musée Guimet. Mais si vous ne le pouvez pas, ou si vous souhaitez simplement vous offrir un chef-d'œuvre pour moins de 8€, si vous voulez la rapporter chez vous et la contempler aussi longtemps que vous souhaitez, en admirer les détails, et bien cette collection, elle est faite pour vous parce que on va vous la proposer en très grand et puis on va vous proposer à l'intérieur de ce numéro bah, de pouvoir essayer de la comprendre, vous guider dans l'œuvre comme on pourrait le faire dans un musée. C'est ce que expliquait Laurence de Villers tout à l'heure sur la façon dont les tableaux nous parlent, bah, pour essayer de comprendre comment les tableaux nous parlent. Et on essaie dans ce numéro de se replacer dans l'époque d'Hokusai, de revenir sur les raisons qui poussent un homme de 70 ans comme lui à se lancer dans une estampe. On vous raconte comment se réalisent les estampes, où on vous montre encore les résonances dans la culture mondiale qui vont de Van Gogh à Tintin.
Merci Julien Bisson, le Musée du 1 consacré à la grande vague d'Hokusai avec ce magnifique poster, c'est évidemment disponible en kiosque. Et tout de suite, c'est la punchline philo de Thibaut de Saint-Maurice.
Philosopher,
France Inter,
comme le dit Descartes, c'est d'abord douter de tout.
Grand bien vous fasse.
Et donc douter du doute, et donc douter que philosopher, ce soit douter de tout.
Thibaut de Saint-Maurice, vous avez donc choisi la célèbre phrase de Pascal, l'homme est un roseau pensant. Vous avez devant vous l'une des grandes spécialistes mondiales de Pascal.
Oui, je vais faire attention. Alors, voilà pour vous, Ali, vous ne vous y attendiez sans doute pas ce matin, mais donc, d'après le philosophe Blaise Pascal, vous n'êtes donc qu'un roseau. Et même un tout petit roseau, Ali, tout fin, tout frêle, tout fragile. Alors, en vous regardant, bien sûr, l'image qui vient immédiatement, c'est plutôt celle de l'arbre vénérable. Votre allure, votre stature, votre envergure, votre droiture font penser à un grand chêne marronnier majestueux, à un séquoia impressionnant. Mais non, voilà, vous n'êtes finalement qu'un roseau. Et Pascal insiste un peu plus loin, l'homme n'est qu'un roseau le plus faible de la nature. Voilà, même vous, Ali, comme nous tous, du fait de notre humanité, ne sommes que donc de petits roseaux fragiles. Avec cette image, Pascal attire notre attention sur notre vulnérabilité. Un coup de vent, une pluie un peu forte, une chaleur un peu sèche, et nous voilà à la limite de rompre. Notre humanité ne se définit pas d'abord par la force, mais par la fragilité. Notre orgueil nous représente souvent hein, comme les maîtres du monde, la créature la plus évoluée de l'univers, et pourtant nous sommes si exposés aux maladies, au hasard des accidents et jusqu'aux excès de notre propre orgueil justement. Alors en quelques mots tout simples, Pascal nous fait redescendre d'un coup et nous ramène à la misère de notre condition humaine la plus faible de la nature.
Mais Thibaut, je ne suis pas qu'un roseau, je suis également un roseau pensant.
Oui, bien sûr, Ali. Voilà, super.
Mais... Je suis une chose qui pense.
Exactement, une telle citation donc, doucement, ça se déguste hein, mot après mot. Et pour bien comprendre la portée, il fallait donc d'abord s'arrêter sur cette histoire de roseau tout fragile, mais on peut maintenant, oui, prendre le mot d'après. Roseau, certes donc, mais roseau pensant. Nous ne sommes donc pas seulement faibles, nous sommes aussi conscients de notre faiblesse. Cette pensée qui nous anime, elle renvoie d'abord à la conscience que nous avons de nous-mêmes et de notre condition, donc à la conscience de notre vulnérabilité. Et voilà, tout le point de bascule. L'univers peut bien nous écraser, puisque nous sommes faibles, mais nous en sommes conscients, nous le savons. Là où l'univers, lui, n'en sait rien. Et comme l'ajoute Pascal aussi juste après, toute notre dignité consiste donc en la pensée. Le monde, la nature, l'univers, tout cela me dépasse largement. Tout cela est bien plus grand que moi, bien plus fort que moi, mais pourtant, Par la pensée, par l'étude, par la connaissance, par la conscience, je peux le comprendre à partir d'un seul point, à partir de moi. Il y a donc de la misère et de la grandeur dans notre condition. La misère de notre vulnérabilité se lie à la grandeur de notre conscience. Si nous sommes grands, c'est parce que nous nous savons petits. En une image, celle du roseau pensant, Pascal situe exactement le paradoxe de notre condition humaine. Dès la naissance, nous pouvons mourir à tout moment dans un univers bien plus grand que nous, mais au moins nous le savons. Alors comment vivre après une telle leçon ? Eh bien en toute humilité d'abord, parce que notre grandeur ne vient pas d'une conscience de la grandeur, mais d'une conscience de la fragilité. Et puisque nous en sommes conscients, puisque nous ne pouvons pas l'ignorer, à nous de nous rendre attentifs aux vulnérabilités qui nous traversent, à nous d'en prendre soin dans nos petites vies et dans les petites vies des autres pour en faire le ciment de notre humanité commune. Comment vivre ? Eh bien aussi en toute lucidité ensuite. De cette lucidité dont le poète René Char disait qu'elle était, à l'aide d'une autre image tout aussi paradoxale et magnifique, la blessure la plus proche du soleil.
Laurence de Villers, vous lui mettez combien ?
Non, mais j'ai rien à ajouter.
Guillemette ?
Bah, moi, je trouve ça très beau. Et puis, je me dis que quand un roseau pense, cela fait que même quand il penche, il ne rompt pas.
Les punchlines philo de Thibaut de Samory sont à podcaster sur l'appli Radio France. Allez, j'aimerais adresser un mot spécial à notre collaboratrice bien-aimée, Nathalie Romero, qui part à la retraite aujourd'hui après 37 ans de bons et loyaux services à Radio France. Nathalie Romero, formidable chargée de programme, qui a notamment travaillé avec Patricia Martin, Jacques Pradel, Annette Ardisson, Albert Duroy, Pascal Clark, José Arthur, André Manoukian, Frédéric Lopez, Charline Vanhoenacker et Alix Vizorek, évidemment. Je vous souhaite vraiment de rencontrer des personnes comme Nathalie, d'une droiture, d'une loyauté, d'une sympathie, d'une drôlerie et d'un professionnalisme absolument exceptionnel. Tu vas vraiment nous manquer, Nathalie. Un grand vide au bureau. Et comme tu n'aimes pas parler au micro, c'est Guillemette Audicino qui va lire les jolis mots que tu as envoyés à tes collègues d'Inter.
Alors l'objet du mail, c'était juste « bye bye ». C'était en 1989, sous le règne de François Mitterrand et Jean Maheu. Le mur de Berlin tombait, la vague Solidarnosc grandissait en Pologne et un seul homme faisait face à un char, place Tiananmen. Renaud chantait Miss Maggie, place de la Bastille. On dansait sur la Lambada et Redman caracolait en tête du box-office. À Radio France, il n'y avait pas de portique de sécurité ni d'ordinateur. Les auditeurs nous envoyaient des lettres manuscrites. Pour appeler la province ou l'étranger depuis nos téléphones à cadran, il fallait une autorisation et passer par le standard général. Les standardistes des émissions notaient les messages à la main avec du papier carbone et on envoyait des fax et des téléx. Les dépêches arrivaient dans un seul bureau. Elles étaient imprimées et distribuées par une personne dont c'était le job à plein temps. Il fallait appeler les renseignements pour joindre les invités et faire des photocopies d'articles de journaux pour la doc. Le montage des PAD se faisait sur des magnétos à bandes, la clope au bec. On bossait beaucoup, beaucoup trop. Mais on faisait des courses de chaises à roulettes et des parties de pétanque dans les couloirs, pendant que le chien de Macha Béranger déposait ses crottes dans le studio de la matinale, présenté par Jacques Pradel. On était heureux d'être ensemble, de faire partie de la même équipe, et personne ne pensait à quitter cette chaîne. Vous avez tous participé à cette histoire, de très près ou d'un peu plus loin, à des périodes différentes et pour des durées plus ou moins longues. Nous avons beaucoup bossé, nous nous sommes beaucoup marrés et nous avons parfois pleuré aussi. Il y a eu les mentors, les alter-ego, les anciens et les jeunes pousses. Vous avez tous participé à cette aventure et garderez une place dans mes souvenirs. Non, c'est pas moi qui l'ai écrit, ça m'émeut. Vous m'avez nourri par votre expérience, votre curiosité, votre humanité, votre bienveillance, vos joies, vos peines, votre humour, vos sourires, vos rires, vos regards pétillants, vos humeurs parfois et vos exigences aussi. Je ne garde que le meilleur et vous quitte pleine de projets pour ma nouvelle vie. Et ça se termine par un petit smiley, tout simple, tout beau, comme Nathalie.
Les magnifiques mots de Nathalie Romero, qui va vraiment nous manquer. Je l'embrasse très fort. Merci aux amis du vendredi, à Thibaut et Guillemette. Merci Dominique de Fonréau, Margot Bourguevin et Laurence de Villers. Merci à lundi. Voilà.